Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une femme qui adore les voyages, qui adore son continent africain et qui adore le découvrir et découvrir ses différentes cultures à travers, notamment, son travail de businesswoman. On y va.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Jamila Denguir, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Jamila ?
Très bien, Yasmine. Merci beaucoup de m'avoir invitée à participer.
Alors,
c'est un plaisir.
Quand je pense à vous, Jamila, je pense à la femme africaine. Est-ce que j'ai raison ?
Oui, effectivement.
Dans ma tête, Jamila, c'est la femme pas marocaine, pas maghrébine, pas française, mais c'est la femme africaine.
C'est ça, exactement. On a Léon l'Africain et Jamila l'Africaine.
Ça,
je suis
c'est
passionnée
pas. Depuis toujours ?
Depuis, ouais, on va dire la vingtaine.
Ouais.
La vingtaine, où j'ai décidé de m'orienter vers la zone MEA, qu'on va appeler Middle East and Africa. Et puis, ma carrière, je l'ai commencée sur l'Afrique, parce qu'on m'a donné l'opportunité de commencer par le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Alors, vous êtes d'origine marocaine.
C'est ça, exactement.
Vous n'avez pas grandi au Maroc ?
Non, en France.
En France. Tout votre parcours scolaire, toute votre vie s'est faite en Europe. Et finalement, c'est un retour aux racines.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le repat, une envie de participer à l'évolution de son pays d'origine parce qu'on se sent moins bien dans le pays qui nous a vu grandir, tout simplement.
Oui, c'est comme ça que vous l'avez ressenti ?
Oui, réellement. Réellement, l'électrochoc, ça a été la tendance un peu qui devient de moins en moins tolérante et ouverte. Et ce que je ne retrouve pas dans les pays d'Afrique, quoi qu'on puisse en dire, on a tendance à nous avancer vers la tolérance de l'autre, vers une certaine ouverture d'esprit.
Alors, ce retour aux sources africaines, au continent de vos origines, justement, il se fait comment au quotidien ?
Alors, faut savoir que moi, je suis spécialisée donc sur la zone Afrique et que j'ai décidé de rentrer au Maroc pour créer mon entreprise qui va s'adresser aux industriels africains pour les aider à se développer sur l'Afrique. Parce qu'il y a une vraie volonté de développer ce qu'on appelle le panafricanisme au sein des sociétés du continent et de les inciter à se tourner vers les pays voisins au lieu d'aller chercher toujours à exporter vers l'Europe parce que c'est plus prestigieux, parce que effectivement on a l'impression qu'il y a plus les moyens vers l'Europe, alors que pas du tout, pas du tout. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des grands groupes, de les représenter sur l'Afrique. Donc, je vais être sur la représentation de marques. J'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes internationaux qui ont des marques qui sont réputées mondialement, ce qu'on va appeler des marques premium, comme la glace qu'on connaît très bien, qui vient d'un groupe américain, où elle va se vendre à entre 6 et 9 euros le pot en rayon et qui va avoir une clientèle en Afrique. Donc, vraiment, on a cette image-là de l'Afrique qui n'a pas de moyens, alors que il y a les moyens, en fait, ça fait beaucoup penser au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre les gens qui n'ont pas et les gens qui ont. Et il y a beaucoup de gens qui ont, la classe moyenne supérieure, la classe supérieure aisée, qui va pouvoir se permettre d'acheter ce type de produit. Donc aujourd'hui, moi, j'incite les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes, ivoiriennes à se tourner vers les pays voisins pour exporter, représenter leurs produits, voilà.
Et donc, vous agissez comment ? C'est du démarchage ?
Alors, vu que j'ai travaillé pendant 5 ans avec des distributeurs, des retailers, des grossistes sur la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, je propose aux marques de contacter mon réseau et de leur proposer les marques en question. Donc, ça peut être de la viennoiserie surgelée, ça peut être des marques de tout ce qui est snacking, ça peut être des produits cosmétiques aussi.
Ça facilite, justement, de s'appeler Jamila Denguir, est-ce que ça facilite le réseautage en Afrique ?
Ah, totalement, totalement. Surtout que moi, j'ai un D à mon prénom, donc c'est Jamila.
Oui.
que ma maman est franco-algérienne. Et donc, du coup, j'avoue que c'est passe-partout. Parce que même quand je vais en Algérie, je passe très bien alors que je suis... que j'ai un passeport marocain, et au Maroc, ben, on me considère comme marocaine. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas ce souci-là. Au Sénégal, on est très, très appréciés. Enfin, il faut dire que le Maroc et le travail de Sa Majesté portent ses fruits, parce que partout où on va, on a le tapis rouge qui est déroulé dès l'aéroport. Dès l'aéroport, dès le contrôle de police à la douane. Vous êtes marocaine ? Ah, le roi Mohamed VI, et puis... Puis voilà, il y a cet engouement et puis on commence à vous parler. Et ça marche pareil au niveau du réseautage, c'est que les gens, ils vont vous aider, ils vont avoir envie de vous aider. Et donc du coup, de bouche à oreille, et ben, on vous ramène soit des clients, soit des gens qui vont vouloir que vous les représentiez. Et donc ouais, ça c'est vraiment cool.
Alors justement, femme d'aujourd'hui que vous êtes, en quelque sorte, c'est cette femme africaine, parce que vraiment, pensant à l'échange qu'on allait avoir, dans ma tête, c'est, et au titre que j'allais mettre, notamment sur Média Podcast, c'est Jamila Denguir, la femme africaine. Et donc, cette pluralité culturelle, identitaire, vous ne la vivez pas du tout comme une schizophrénie?
Ah non. Moi, je la vois comme une force. Après, je l'ai vue comme une force à partir de mes 20 ans, encore une fois. Avant, pour moi, c'était un poids d'avoir plusieurs cultures, parce que c'est là que je le vivais comme une schizophrénie. Je ne savais pas à quel sein me vouer. Je ne me reconnaissais pas en tant que pleinement française par certains aspects, notamment culturels, où je ne vais pas me retrouver. Et puis on me faisait sentir aussi que je n'étais pas française depuis mon plus jeune âge. Je crois que la première fois que j'ai vécu du racisme, j'avais 5 ans. Donc et en même temps, dans la culture marocaine, je n'y retrouvais pas trop. Je trouvais ça quand j'étais plus jeune. Je voulais pas parler arabe. Mon père me parlait arabe, je répondais en français. Je lui demandais de pas me parler devant mes copines. Donc ça, c'était moi avant. À partir de mes 20 ans, en fait, je suis venue passer quelques mois au Maroc. Y a des choses que je n'ai pas appréciées ici, mais c'est là que je me suis rendu compte de la richesse de la culture arabe, la richesse du continent, la richesse de notre identité, en fait. Et c'est là que je suis repartie en France en me disant, voilà, je vais m'orienter sur des études de langue arabe, en essayant de développer tout ce qui est, comme j'ai dit auparavant, une culture arabo-africaine, pour essayer d'orienter mon parcours, ma carrière, en tous les cas, sur cette zone-là. Mm. Et du coup, ça a commencé comme ça, par une licence en langue arabe.
D'accord. Voilà. Mais alors, justement, Jamila, tous ces parents qui ont envie de distiller la culture marocaine à leurs enfants, lorsqu'ils vivent dans d'autres pays que le Maroc, et qui se retrouvent avec ces enfants réticents, comme vous l'avez été vous-même, justement. Et finalement, il vous a fallu quoi pour le réaliser toute seule? C'est-à-dire, est-ce que c'est un processus purement personnel, ou bien l'environnement, même si vos parents ont essayé de le faire, vous étiez contre, est-ce que ça a quand même servi à quelque chose?
Oui, ça, ils ont participé, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, je parle arabe, bien que je n'ai pas voulu et que j'ai été rebutée pendant de mes 10 à mes 20 ans. Aujourd'hui, je remercie mon papa d'avoir parlé avec moi que arabe et ma maman que français, parce que je maîtrise les deux. Après, le déclic, je l'ai vraiment eu quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la culture, c'est-à-dire à la civilisation islamique, aux grandes figures de l'Afrique qui ont défendu leur pays, comme Sankara ou autre. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, nous aussi, on avait une histoire, qu'on avait des gens très connus, qu'on avait de quoi être fiers de ce qu'on a accompli sur le continent, qu'on avait les ressources pour, qu'elles soient humaines, intellectuelles, ressources naturelles. Enfin, on n'a pas à avoir honte de l'Afrique, du Maroc, de notre appartenance à la culture arabo-musulmane. En fait, c'est le fait d'avoir grandi en France qui m'a fait en avoir honte. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été dans des environnements, on va dire, privés catholiques. Du coup, c'était vraiment... j'étais la seule franco-maghrébine. Et on aimait bien me rappeler que moi, j'étais intégrée, que j'étais le modèle d'intégration parce que je reniais justement d'où je venais.
D'accord.
Et donc, du coup, avant mes 20 ans, bah, je trouvais ça cool. Je suis d'accord. Moi, j'avais des amis qui me disaient, qui me parlaient avec des termes très racistes, des gens issus de l'Afrique. Or que maintenant, je ne laisserai pas passer et que je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là parce que finalement, je me cherchais et j'ai accepté des choses pour plaire à des gens qui aujourd'hui, on me dirait ce que j'ai pu entendre à mes 16-17 ans, je rentrerai en débat tout de suite.
Donc, qu'est-ce que vous dites aux parents qui voient leurs ados, justement, fermés par rapport à leur identité d'origine ? Est-ce qu'il faut les laisser tranquilles parce qu'un jour, ils vont se réveiller ? Ou bien il faut militer en tant que parent ?
Il faut militer en tant que parent, mais il faut militer autrement que par la religion. Moi, ce que je reproche aux parents qui sont à l'étranger, c'est de vouloir à tout prix parler de religion et ils en oublient la culture et l'histoire de nos pays, en fait. Alors que c'est par là que passe l'engouement pour peut-être la religion ou pas. Par contre, moi, je parle vraiment de la culture, de qui sont les grands personnages du Maroc, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait pour avoir notre indépendance, qu'est-ce que le Sahara pour nous, Marocains. Je vais prendre l'exemple du sud du Maroc pour nous. Moi, j'ai pas compris ce que ça représentait pour le Maroc jusqu'à mes 20 ans, en fait. Avant, j'avais pas compris qu'il y avait... ce qu'on avait fait pour le récupérer, à qui il appartenait avant, à nous, qu'entre-temps on s'était fait spolier par les Espagnols. Donc toutes ces petites anecdotes qui construisent notre identité en tant que Marocain, il faut absolument que les parents prennent du temps à expliquer les choses, en essayant d'être objectifs, bien évidemment, mais on a une très 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 belle histoire au Maroc, et ça vaut pour tous les pays africains. Il faut prendre le temps de partager l'histoire, autant qu'on peut partager une religion le type de cuisine qu'on peut avoir dans nos cultures. Voilà, il faut donner de l'importance à l'histoire.
Est-ce que, Jamila, est-ce que vous considérez comme une rescapée culturelle et identitaire ?
Oui. Oui, parce que quand je vois certaines dérives de gens qui vont décider de changer leur nom et prénom pour trouver du travail, ou qui vont cacher leur religion ou leur appartenance. Ouais, je pense que j'ai été, entre guillemets, sauvée. Et ce qui m'a sauvée, c'est la connaissance. Le fait d'être curieuse, de chercher à comprendre, de toujours remettre en question les choses qu'on me donne, qu'on me sert, entre guillemets. Donc oui, complètement. Voilà. En arrivant au Maroc il y a un an, je ne connaissais pas qui était Fatema Mernissi. Maintenant, ma bibliothèque, j'ai quasi tous ses livres dans ma bibliothèque. Donc, en fait, il faut être ouvert, écouter et puis s'intéresser. C'est-à-dire que dès qu'on vous donne un nom, une histoire, allez continuer de rechercher, d'essayer de comprendre. En un an installé au Maroc, je pense que je comprends beaucoup plus sur notre culture qu'avant d'arriver ici. Et j'en suis d'autant plus fière.
Oui, alors justement, ces va-et-vient entre les différents pays africains, ça vous laisse le temps d'avoir une vie personnelle, une vie de couple, une vie de famille ?
De famille, oui. J'essaie d'aller voir mes parents assez régulièrement qui sont basés en France. Après, vie de couple, non. Mais je pense que ça, c'est plutôt un autre sujet. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui ont peur de ce genre de femmes qui bougent beaucoup, qui sont très indépendantes. Moi, j'ai vécu toute seule pendant 12 ans. Donc voilà, après, ce n'est pas ce qui m'est le plus à l'aise, je pense, la jante masculine.
Au Maroc comme en France Au Maroc
comme en France.
Comme en France.
Non, au Maroc comme en France, oui.
Parce que stéréotype, c'est que l'homme français est beaucoup plus ouvert à cette femme indépendante.
Ça dépend quel type de femme indépendante. Celle qui va travailler à 9-17 heures, oui, bien évidemment. Une femme qui va partir en déplacement, là je prends mon mois d'octobre, je pense que je vais être sur Tanger qu'une semaine, sur 4 semaines. Je vais être en Côte d'Ivoire, après je vais être à Paris pour un salon. Derrière je rentre au Maroc, il faut que j'aille à Casablanca pour un événement. Et ensuite je rentre pour la dernière semaine. Et après je repars au mois de novembre au Sénégal. Donc faut accepter.
Faut accepter, ouais. Alors, vous avez envie de mener cette vie pendant combien de temps ? Cette vie nomade africaine ?
Pour l'instant, je m'en lasse pas. Tout le monde m'avait dit que les aéroports me lasseraient. Mais ça fait quoi ? Ça va faire 10 ans que je fais ça. Et je me lasse pas, en fait. J'adore les aéroports. On fait plein de belles rencontres. Voyager, ça permet d'élargir l'esprit. Enfin, chaque fois que je voyage, je rencontre quelqu'un qui me raconte une partie de sa vie, et ça me marque parce que c'est un bout d'histoire aussi, que ce soit des gens qui ont survécu à la guerre au Liberia, d'autres qui sont tombés par hasard en Guinée. On leur avait dit qu'on les emmenait aux États-Unis, ils sont arrivés en Guinée. Donc c'est toutes ces petites anecdotes qui font qu'on se lasse pas. Et aussi, il faut savoir que sur l'Afrique, le relationnel dans le business n'est pas du tout le même qu'en Europe. Donc en fait, très vite, on crée vraiment du lien, mais sincère. Et puis les gens deviennent des proches. Moi, je crois que je suis invitée chaque année à 2-3 mariages de mes clients, des enfants de mes clients en Inde, au Liban, en France. Du coup, c'est aussi ce côté relationnel qui fait que j'ai pas l'impression de travailler, en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps avec des amis en train de parler business. Voilà.
Ok. Donc ça, c'est un relationnel qu'on retrouve pas forcément en Europe.
Non, du tout. En Europe, puis vous avez aussi le fait que tout peut être interprété comme de la corruption. Alors que moi, mes clients, même quand je travaille pas avec eux, ben là, je prends l'exemple de clients avec qui je ne travaille pas depuis 2 ans. J'ai été invitée au Liban, on a fait la fête avec eux, j'étais avec l'épouse de mon client, on a fait la fête, il m'a présenté d'autres personnes qui sont en Afrique, qui sont plus ou moins dans mon domaine, du coup on a pu discuter, donc c'était vraiment amical et en même temps business. Donc et on travaille pas ensemble depuis 2 ans. Et c'est lui qui m'a invité, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un taxi. J'étais à 1 heure d'où il était dans les montagnes libanaises. Et du coup, il a envoyé un taxi pour venir me chercher, pour m'emmener et pour me redescendre. Et c'est pas vu comme de la corruption. Alors qu'en Europe, et ça, il y a cette tendance qui commence au Maroc avec les grands groupes, c'est que la limite entre relation et corruption est très très fine. On peut pas accepter de cadeaux, alors que nous, on se fait régulièrement des cadeaux. Oui, je le sens parce que je travaille sur le Maroc aussi et je le sens avec les grands groupes.
Jamila Denguir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 ans à venir ?
Beaucoup de réussite dans tous mes projets.
Beaucoup de voyages ?
Oh oui, c'est sûr qu'il y en aura.
Ouais.
Donc voilà.
Beaucoup de voyages.
Merci beaucoup en tous les cas Yasmine. De m'avoir donné l'opportunité de participer.
Merci à vous Jamila. C'était un plaisir d'entendre votre perspective justement sur votre parcours de vie. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.